Les ateliers radiophoniques de Bob FM.
Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire car j'ai réussi mon CAPES.
Je leur ai pas demandé de me faire un poème en alexandrin, hein. Je leur ai demandé de me raconter leur week-end.
La radio dans ton bahut.
Bob FM vous présente ses ateliers radiophoniques.
Bonjour à tous. Cette année, dans le cadre de notre enseignement d'exploration littérature et société en seconde, nous avons travaillé sur le thème du développement durable. Expositions, films, recherches documentaires nous ont permis de réfléchir à différentes thématiques comme le réchauffement climatique, l'agriculture bio ou le recyclage des déchets. Pour achever en beauté notre année, nous avons décidé de vous parler de personnes qui s'investissent dans des projets de développement durable. Tous tentent à leur manière de nous permettre de vivre mieux, sans détruire notre planète, afin de la léguer aux générations futures dans le meilleur état possible. La balle est dans notre camp.
Nous sommes donc partis à la découverte d'initiatives locales. Et pour commencer, nous nous sommes intéressés à ce qui se passe au plus près de nous. Gabriel, Théo et Julien sont allés voir ce qui se fait au lycée dans ce domaine.
Effectivement, au lycée Paul-Éluard de Saint-Junien, tout le monde s'investit dans le développement durable. L'administration, les équipes éducatives, techniques et bien sûr les élèves. Monsieur Lassiae, le proviseur, nous explique pourquoi le tri sélectif des déchets a été mis en place à la cantine.
Paye d'une taxe ordure ménagère qui est relativement importante et que par l'intermédiaire du développement durable, on va pouvoir avoir moins de déchets et donc payer d'une taxe moins importante puisqu'elle est, elle est fonction du volume de nos déchets et nos déchets. Le souhait de l'établissement et des... du personnel de l'établissement, de sensibiliser les jeunes, les élèves de l'établissement, au développement durable par l'intermédiaire de ce tri sélectif.
Les services de l'intendance travaillent en partenariat avec différentes entreprises ou associations qui valorisent certains déchets récupérés au lycée. On écoute Monsieur Mathieu, attaché d'intendance.
Au niveau des poubelles, donc elles sont reprises par le CIVOM, donc qui traite toutes les ordures ménagères. Les autres déchets sont repris, le pain, par une association. La ferraille, le carton sont repris par l'entreprise Eno qui est située à Oradour-sur-Glane. Pour le papier, nous avons un conteneur donc dans la cour de l'établissement et nous avons des bacs de récupération dans chaque salle de classe et chaque bureau. Alors, nous avons un partenariat avec une société qui recycle les piles, donc nous avons un collecteur de piles dans le hall du lycée et dans le hall du collège.
D'autres projets sont en cours de réalisation ou encore au stade de la réflexion, comme nous le dit le proviseur.
On réfléchit également à mettre en place, suite au tri sélectif à la cantine, un compostage des déchets alimentaires.
En tant qu'élève, un projet nous touche plus particulièrement. C'est la mise en place des éco-délégués. Mais c'est quoi cette bizarrerie ?
Un éco-délégué, c'est un jeune qui souhaite avant tout contribuer activement au développement de pratiques éco-citoyennes dans son établissement.
Les éco-délégués, élèves volontaires, se réunissent à peu près une fois par mois. Madame Feder, la CPE, nous présente quelques-uns des projets sur lesquels travaillent les éco-délégués.
Justement, cette action sur le pain, ils vont aller visiter cette association aussi pour voir comment ça se passe. Ils vont rencontrer les responsables, les employés aussi de l'association. Ils vont comprendre aussi le cheminement du pain jusqu'à la transformation en aliment pour les animaux. Et puis, ils vont aussi mettre en place un questionnaire dans l'établissement pour interroger tout le monde, les élèves, tous les adultes, pour savoir ce qui existe déjà pour lutter contre le gaspillage et quels sont les défauts aussi de l'établissement, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas connues. On a vraiment besoin de faire le point, le bilan sur tout ça pour savoir comment travailler. Ils vont aussi rencontrer le responsable des espaces verts de la ville de Saint-Junien. Alors, on attend encore puisqu'on va le contacter, donc c'est un petit peu officieux, mais autant en parler quand même. Il voudrait travailler sur un potager, mais un potager un petit peu écologique, c'est-à-dire quelque chose qui ne nécessite pas un arrosage permanent, mais qui pourrait rapporter quelques légumes, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, on a beaucoup d'espace vert dans l'établissement, pourquoi ne pas l'utiliser également.
À nous de dire ce qu'il faut pour participer à ce mouvement et faisons en sorte de devenir de vrais éco-citoyens responsables.
Merci les garçons. Tout près de Saint-Junien, une association existe et qui porte le nom évocateur L'Arbre et l'Abeille. Alors Virgile, Léa, Chloé, c'est quoi cette association ?
L'Arbre et l'Abeille est une association locale qui est partie de la volonté d'un groupe d'apiculteurs de développer la protection des arbres et des abeilles. Aujourd'hui, elle regroupe 80 adhérents, dont 50% de sympathisants. Monsieur Vigneron, le président, nous parle des différentes activités mises en place.
Alors, l'activité essentielle, c'est d'abord et avant tout la connaissance de l'abeille. Pour cette connaissance, nous avons à notre disposition initié un projet d'un sentier de découverte qui s'appelle l'arbre et l'abeille, sur lequel est implanté le rucher municipal de Javerdun. Ce rucher municipal nous sert de support pour la mise en place de cours d'apiculture que nous utilisons de façon régulière pour des jeunes majeurs, des adultes et également pour des visites des enfants des écoles. Projet du rucher municipal sur ce nouvel espace communal. Ce terrain communal était complètement à l'abandon et il nous faut aujourd'hui réinventer un certain nombre d'observations, à savoir que nous faisons l'inventaire des oiseaux, que nous voulons et que nous souhaitons voir se réimplanter un certain nombre d'oiseaux, en particulier d'oiseaux migrateurs. Nous souhaitons également faire l'inventaire de la faune et de la flore, puisque tout cet espace a été broyé avant l'implantation de trois essences d'arbres mellifères pour le développement de l'apiculture.
Le vœu le plus cher de cette association est d'arriver à réunir les hommes tous ensemble, et notamment les apiculteurs et les agriculteurs. Car c'est au cœur de ces relations que va se jouer l'avenir de l'abeille, donc celle de l'humanité. À son petit niveau, cette association apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre la disparition de l'abeille, petit insecte pollinisateur qui permet la reproduction des plantes. Sans elle, la production agricole serait bien plus compliquée.
Notre association ne peut pas avoir une incidence sur le phénomène mondial qui est la disparition de l'abeille, mais elle a déjà un impact sur un plan local. Elle est souvent citée pour l'ensemble des actions qu'elle mène, à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan du respect de la nature, sur le plan du respect de l'environnement. Nous pensons effectivement que c'est cet ensemble d'actions non politiques, c'est-à-dire extrêmement bien implantées localement, qui pourront permettre effectivement une prise de conscience pour la protection de l'abeille. Nous parlons aujourd'hui de l'abeille domestique, c'est-à-dire l'abeille locale de chez nous, ce qu'on appelle l'Apis mellifera. Cette abeille, nous la rencontrons dans l'ensemble de l'Europe en particulier et dans le monde. Mais nous trouvons des abeilles sauvages en grande quantité, des abeilles individuelles qui participent aussi au phénomène de pollinisation. Et nous avons de l'Himalaya en passant par l'Indonésie, par l'Australie, par différentes régions d'Afrique ou du Sahara, des abeilles qui participent aussi à ce phénomène. L'abeille était utilisée essentiellement pour la production de cire et la production de miel. Donc on retrouve cet enthousiasme autour de l'abeille de façon tout à fait mondiale. L'enrayer est un souci effectivement important, puisque toutes les parties du monde sont aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, touchées par le phénomène de disparition de l'abeille.
Très récemment, les membres de l'association ont vécu un événement qui leur a mis le bourdon.
Lorsqu'on est arrivé sur le rucher où 8 jours avant on était passé, où ça bourdonnait de joie, et on est arrivé sur le rucher, il y avait un silence. Plus du tout de bruissement d'abeilles, et ce silence nous a foutu le moral à zéro. Parce que, encore une fois, c'était déjà arrivé en 2012, encore une fois, nos abeilles avaient disparu, intoxiquées par produit X.
La province du Sichuan. Au sud, le comté rural de Hanyuan vit de la culture de la poire. Tous les ans, au mois d'août, les branches des poiriers plient sous le poids des fruits. Chacun d'eux est enveloppé individuellement pour le protéger des insectes. Une famille ordinaire récolte environ 5 tonnes de poires. Mais ce ne sont pas les abeilles que doivent remercier les fermiers pour leur abondante production. Car ici, elles ont disparu depuis bien longtemps. Au début des années 1980, l'utilisation non contrôlée de pesticides a anéanti toutes les abeilles de la région et tué toutes les plantes à pollen qui subvenaient à leurs besoins. La production fruitière s'est effondrée, laissant les fermiers assister impuissants à la destruction de leur gagne-pain.
J'ai envoyé une lettre à Pékin et on m'a répondu « Vous n'avez qu'à polliniser à la main. Les insectes qui s'en chargeaient ont tous été tués par les pesticides. Donc, c'est à vous de prendre la relève. »
Pour enrayer ce phénomène, chacun peut participer.
Que chaque personne qui a la possibilité d'avoir un jardin, une parcelle de terrain, peut participer à la protection de l'abeille par l'implantation d'une ruche chez elle. Ce projet aura une double valeur, c'est-à-dire qu'il permettra d'abord aux gens une grande sensibilisation à l'abeille et aussi la possibilité de se fournir en miel de qualité et en produits que chaque individu aura pu réaliser de sa propre initiative.
Si vous voulez vous investir dans la protection des abeilles, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site web l'arbre-et-l'abeille.com.
Mais le développement durable, ce n'est pas que l'écologie, c'est aussi l'économie. Chloé et Émilie, vous allez nous parler d'une monnaie alternative.
Oui, nous avons découvert qu'il existe en Limousin une monnaie locale née en 2015 qui s'appelle Loupelou. Vous savez ce que ça veut dire ? Loupelou, c'est la bague de châtaigne en occitan. Ils ont choisi ce nom pour expliquer que cette monnaie est faite pour être dépensée et non pour être épargnée. Comme la bague, elle pique et on ne peut pas la garder dans le fond de la poche. Marie-Claude Couty et Françoise Roussy, membres de l'association Le Chemin Limousin, nous expliquent pourquoi l'avoir mis en place cette monnaie locale et comment elle fonctionne.
Alors au niveau du fonctionnement, c'est tout simple puisque un pélou c'est égal à 1 euro, donc il n'y a pas de différence à ce que chacun d'entre nous puisse rémunérer le producteur à la hauteur de son travail. On sait très bien, on en entend parler actuellement, les agriculteurs, on leur achète le litre de lait à 20 centimes, et ça s'en va, ça voyage, et quand ça arrive, on nous vend le litre de lait à 1 euro ou 1,20 euro. Et le producteur, lui, il a toujours que ses 20 centimes pour s'occuper de ses vaches. Tandis que là, nous, localement, on va par exemple acheter le litre de lait à 1 euro, un peu moins cher que dans les grandes surfaces, mais c'est juste à côté de nous, et on sait que notre euro ira payer le producteur.
Pour que les gens se responsabilisent au niveau de l'écologie, pour respecter l'environnement. On favorise, cette monnaie est là pour favoriser les personnes qui respectent l'environnement.
Cette monnaie, elle circule sur un territoire. Le territoire est délimité par les adhérents. On appelle ça un réseau et on ne peut consommer qu'au sein d'un réseau.
Parce que c'est une monnaie légale. Et les euros que les utilisateurs donnent pour avoir des pelous vont dans une banque éthique le plus possible. Ça pourrait être la NEF, mais la NEF n'est pas encore une banque. C'est le Crédit Coopératif qui prend ces euros et qui va les utiliser. Ils ne vont pas rester à dormir dans la banque. Hein. Ils vont être utilisés uniquement sur le local et pour des projets aussi éthiques. C'est toujours le mot qui revient, hein. C'est-à-dire des projets raisonnables et qui vont dans le sens d'un respect toujours et de l'environnement et des êtres humains.
Maintenant que la monnaie existe, le rôle de l'association a évolué.
Maintenant que la monnaie locale est née, on fait, on va dire, sa promotion. Ce qu'il faut, c'est que si on veut que cette monnaie locale ressemble à quelque chose et soit vivante sur tout notre territoire, il faut que les gens sachent à quoi elle sert.
Voilà, donc, bien par exemple pour ma part, le samedi matin, je viens sur le marché à Saint-Junien et je propose la monnaie, le pelou, à des prestataires, c'est-à-dire à des producteurs, à des restaurateurs, à des artisans. Les prestataires, ce sont ces gens-là. Alors, pas n'importe lesquels. Ce sont des prestataires qui sont, on va dire, sur un chemin éthique. C'est-à-dire que les producteurs, par exemple, vont vers l'agriculture bio, de préférence. Ils essaient d'aller le plus possible vers une agriculture propre, on va dire, même s'ils n'ont pas le label bio. Ils vont essayer de ne pas mettre de pesticides, d'herbicides, de fongicides, tous ces mots en yid qui sont comme suicides. et qui abîme la terre. Donc voilà, et puis il faut qu'on distribue aussi à des utilisateurs, parce qu'il faut des gens qui vont proposer des choses à acheter, mais il faut que les utilisateurs prennent aussi le pelou pour pouvoir payer un pelou.
Le Chemin Limousin est une association engagée dans une recherche des alternatives au modèle économique actuel. Même dans son fonctionnement, l'association se démarque. Le mode de gouvernance choisi est celui de la sociocratie. En fait, il cherche à partager au maximum les responsabilités. À part la place du trésorier pour faciliter la gestion, tous les postes sont soit partagés, soit tournants. De cette manière, chacun peut tout faire dans l'association. Si vous voulez savoir où trouver et où dépenser vos pelous, rendez-vous sur le site lecheminlimousin.org.
Mesdames, Messieurs, le train 624 en provenance de Lyon est attendu avec un retard de 30 à 40 minutes.
Et les transports dans tout ça? Il y a du travail aussi de ce côté-là. Comment circuler en polluant le moins possible? Alice, Solène et Émilie ont peut-être découvert la solution.
La solution? Le tram-train. Mais vous allez nous dire, c'est quoi le tram-train?
Alors, pour faire simple, le projet de tram-train, c'est réutiliser les voies ferroviaires, donc l'héritage ferroviaire qui est assez important en Limousin, sachant que rien que sur le territoire de la Haute-Vienne, donc dans un rayon de 60 km autour de Limoges, on a encore 400 km de voies. Et donc le principe, c'est de faire circuler un tram-train, donc un tramway particulier, parce qu'il peut circuler sur les voies classiques de chemin de fer, fonctionne comme un train en campagne, donc dessert les gares qui existent, et fonctionne comme un tramway dans les agglomérations, moyennant la création de nouvelles stations.
Cette idée a germé dans l'esprit de deux jeunes architectes haut-viennois sensibles au problème de la mobilité dans notre département rural. Ils ont créé en 2015 le collectif BSP, Bon Sens Paysan, avec pour but non pas de mettre en place le tramway, mais d'informer et de sensibiliser la population et les décideurs aux problématiques de transport en commun. Ils ont monté leur dossier et estimé le coût d'investissement afin de montrer le réalisme d'un tel projet.
Aujourd'hui, on a un estimatif donc provisoire qui est de 630 millions d'euros et qui comprend l'achat du matériel, la rénovation de l'ensemble des voies qui le nécessitent, l'électrification des tronçons qui ne le sont pas, la création des stations centre-ville, l'aménagement des gares existantes et, j'oublie quelque chose, oui, la création des voies de dépassement nécessaires sur les tronçons qui sont un peu trop longs entre deux gares. Sachant que on travaille aujourd'hui à justement perfectionner et préciser un peu ce montant-là, et que ça peut paraître énorme comme ça, 630 millions d'euros, mais il faut bien comprendre que c'est un montant qui concerne l'ensemble des collectivités, éventuellement aussi des entreprises, puisqu'elles seront forcément intéressées à un moment donné si le fret revient ou des choses comme ça, ne serait-ce que pour leurs employés. Et c'est surtout un montant qui s'étale sur une période de 5 à 20 ans.
L'investissement peut paraître énorme, mais ce genre de projet permettrait de créer des emplois.
Il y aura des emplois de fait créés rien que sur le fonctionnement même du projet, puisqu'il va y avoir besoin de chauffeurs particuliers, ou du moins il va falloir former des chauffeurs qui ne le sont pas actuellement. Sachant qu'on sait aujourd'hui qu'il manque de chauffeurs dans la région, notamment dans le ferroviaire. On va sans doute créer des emplois aussi sur ce qui va être la gestion du réseau, puisqu'il va falloir arriver à organiser un peu... Ça va forcément être un peu plus compliqué dans la gestion entre les grandes lignes, les trains express régionaux qui vont continuer à circuler et le réseau de tram-train. Alors si on reste sur la mobilité, il y a aussi la question de tous les transports qui vont accompagner le réseau de tram-train, donc tout ce qui va être les micro-navettes en campagne, tout ce qui va être le réseau urbain TCL qui peut s'agrandir ou dans l'agglomération de Guéret, etc. Donc ça aussi, forcément, ça risque de générer des emplois. Mais de la même façon, ce qu'on essaye de démontrer aujourd'hui dans toutes les questions qu'on soulève en matière d'architecture, d'environnement, de sociologie, dans tous les lieux des gares et des stations, c'est se dire comment est-ce que, à travers ce projet-là et le dynamisme que ça apporte dans tous ces lieux qui aujourd'hui ont tendance à se désertifier un petit peu, ben justement on peut régénérer de l'activité, donc de l'économie, donc des emplois.
Ce tram-train viendrait non en concurrence des autres moyens de transport, mais en complémentarité, permettant ainsi de rapprocher temporellement l'ensemble des communes rurales de la ville. Si vous voulez visualiser les propositions de lignes et les aménagements de gare, vous trouverez toutes les informations sur le site
bsp-limoges.fr.
Pour terminer, Lynn vous donne d'autres pistes pour continuer à réfléchir à toutes ces thématiques de développement durable et pourquoi pas vous investir.
De très nombreuses associations s'impliquent dans le développement durable et l'écologie. On peut citer l'association Aléa qui gère les ressourceries de Limoges et Saint-Julien. Ce sont des lieux où l'on vend des objets, des meubles qui ont été récupérés et restaurés. En plus de se soucier d'écologie en donnant une deuxième vie à des objets voués à la déchetterie, l'association embauche des personnes en insertion, leur permettant de sortir du chômage. Dans un autre domaine, Terre de Liens aide les jeunes agriculteurs à s'installer en leur permettant d'acheter des terres agricoles plus facilement et ainsi empêcher la spéculation et la disparition des terres. Les associations Alder Climat Énergie et Énergie Partagée travaillent sur le changement climatique et les réponses à apporter en matière d'énergie. Cette liste est bien loin d'être exhaustive. Alors si vous vous intéressez au réchauffement climatique, au recyclage, à la biodiversité, à l'agriculture bio, aux alternatives économiques et culturelles, n'hésitez pas à faire quelques recherches sur le net. Il y a certainement une association près de chez vous qui sera ravie de vous compter parmi ses adhérents.
Bref, cette aventure au pays du développement durable s'achève ici. Nous espérons que toutes ces chroniques vous auront intéressé. Relevons tous nos manches pour garder la terre bleue comme une orange, comme l'a dit Paul Éluard, le poète qui a donné son nom à notre lycée. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.